Et nous sommes le lundi 3 juin. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, quel avenir pour le parti Les Républicains? Laurent Wauquiez a annoncé hier soir qu'il quittait la présidence après l'échec aux européennes, laissant un parti divisé dont les cadres et les électeurs sont déjà très courtisés. On va voir ça ce matin après les autres titres, Agnès.
Deux autres djihadistes français vont comparaître aujourd'hui devant la justice irakienne. 9 ont été condamnés à mort la semaine dernière. Le début des concertations pour un revenu universel d'activité, une bonne nouvelle dans la lutte contre certains cancers qui touchent les enfants et puis l'éternel dilemme entre les révisions du bac et les matchs de Roland-Garros.
Les invités d'Inter ce matin, Léa Salamé, bonjour.
Bonjour Nicolas.
7h50.
Les Républicains ont donc perdu leur tête après la démission de Laurent Wauquiez. Le parti est-il définitivement annexé par Emmanuel Macron ou peut-il renaître? Sur quelle ligne? On interroge un de ces maires de droite qu'on dit Macron compatible. Arnaud Robinet, maire de Reims, sera avec nous.
Et à 8h20, à tout à l'heure Léa, après les Républicains, un autre versant de la recomposition politique française. Yannick Jadot au micro de France Inter, l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts est l'invité du grand entretien de la matinale. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. 8,48%, une semaine jour pour jour, heure après l'annonce du score historiquement bas du Parti Les Républicains aux élections européennes, Laurent Wauquiez a donc décidé de prendre du recul. Il a bien tenté de résister, annonçant la tenue d'états généraux de la droite à la rentrée, mais la pression était trop forte et les voix trop nombreuses à demander son départ. Laurent Wauquiez a donc annoncé hier soir dans le 20h de TF1 qu'il quittait la présidence du parti. Yaël Gauz.
Même ses plus proches collaborateurs n'étaient dans la confidence que depuis 24 heures, une décision personnelle mûrie durant le week-end alors que rien ne l'obligeait à démissionner puisque les statuts du parti le protégeaient théoriquement jusqu'en 2022. Mais comment tenir après une telle catastrophe électorale?
Les défaites, elles sont solitaires et il faut que je prenne mes responsabilités. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains.
Car depuis 8 jours, la pression était trop forte, les sondages catastrophiques sur son image et cette impression de sauf qui peut dans la famille LR. Menace de groupes dissidents à l'Assemblée, départ d'élus LR vers En Marche, appel pressant à la démission. Devant tant de vents contraires, Laurent Wauquiez préfère laisser la place.
Pendant une semaine, j'ai tout fait pour essayer de rassembler les bonnes volontés. Mais je vois le risque de retour des guerres des chefs, des désirs de revanche. Je veux pas être un obstacle, à aucun prix. Je pense qu'il faut que la droite se reconstruise.
Mais derrière qui Jean Leonetti assure l'intérim et après, on leur souhaite bien du courage, ironise amer un proche de Laurent Wauquiez. L'ex-président des LR a repris la route, direction Lyon. Son agenda désormais sera strictement régional, Auvergne-Rhône-Alpes et municipal, retour aux sources au Puy-en-Velay. Une démission qui s'ajoute à d'autres, Copé, Sarkozy, les affaires, les guerres de clans, le choc des primaires depuis 2012. Aucun des chefs n'aura tenu plus de 2 ans à son poste.
Une sage décision à saluer dans la soirée Valérie Pécresse. Le défi de la reconstruction est devant nous, a ajouté la présidente de la région Île-de-France. Et déjà, le Rassemblement National et La République En Marche lorgnent sur les cadres et les électeurs déboussolés. Marine Le Pen a aussitôt tendu la main à ceux qui rêvent de restaurer la grandeur de la France. Un peu plus tôt dans la journée, sa nièce Marion Maréchal appelait déjà à une union des droites. Et puis Thierry Soler, ex LR, aujourd'hui député En Marche des Hauts-de-Seine, appelle lui aussi les plus modérés à rejoindre le parti de la majorité.
C'est la suite logique de 2 ans de position non politique du parti de la droite et du centre, les Républicains, qui n'ont que 10 têtes. Bah plutôt que d'avoir une position constructive, c'est-à-dire de soutenir le gouvernement d'Édouard Philippe en votant tout ce qui va dans le bon sens, en amendant quand ça ne va pas assez loin et en s'opposant s'il y avait besoin de le faire, ils sont rentrés dans une caricature résultat des courses. Les électeurs de la droite et du centre, ils sont plus là. Et j'entendais les appels de Marine Le Pen à appeler clairement la droite populaire à les rejoindre. Et c'est naturellement, bien sûr, que nous-mêmes, à La République En Marche, nous appelons tous les maires centristes, de droite, modérés, qui préféreront toujours leur pays à leur parti, à venir nous rejoindre et à mettre leur énergie à reconstruire notre pays plutôt qu'à reconstruire des partis moribonds.
Thierry Soler avec Noé Da Silva et puis élection suite avec un nouveau candidat à la mairie de Paris du côté de La République En Marche, candidature officielle du Grand Son, député de Paris et vice-président de l'Assemblée nationale.
Il est 7h05, Agnès, les procès de djihadistes français se poursuivent en Irak.
9 Français condamnés la semaine dernière, tous reconnus coupables d'avoir rejoint l'État islamique et d'avoir combattu en Irak. 2 autres Français doivent être jugés ce matin à Bagdad devant une chambre spéciale de la Cour pénale et une fois encore, les procès devraient être être expéditif. Céline Martelet est l'envoyée spéciale de France Inter à Bagdad.
Pas plus d'une heure, très probablement. Le temps pour les juges de lister les charges retenues contre les deux djihadistes. L'un d'eux, âgé aujourd'hui de 40 ans, est un vétéran du djihad et au sein de l'État islamique, il aurait exercé les fonctions de juge auprès des très redoutés tribunaux islamiques, ceux qui ont ordonné des exécutions, des lapidations ou des mutilations à Raqqa et Mossoul. Les deux Français auront ensuite quelques minutes pour s'expliquer. Une prise de parole debout, dans une tenue jaune, derrière les barreaux en bois d'une cage. Présent à chaque procès, un représentant de l'ambassade de France, installé discrètement sur un banc. Il ne prend jamais la parole. Ces procès de djihadistes étrangers attirent du public, des avocats, des policiers. Et pour assurer la défense des deux Français tout à l'heure, des avocats irakiens commis d'office, des avocats qui seront désignés ce matin par le juge. Ils n'auront que quelques minutes pour lire le dossier d'instruction et s'entretenir avec leur client éphémère. Quelques minutes pour préparer la défense d'un très probable condamné à mort.
Et dans une tribune publiée ce matin par nos confrères de franceinfo.fr, une quarantaine d'avocats français dénoncent cette justice expéditive et le cynisme de l'État français. Arrêtez le bombardement infernal d'Idleb qui tue beaucoup de civils innocents. Dans un tweet hier soir, Donald Trump a lancé un appel au gouvernement de Bachar al-Assad et à son allié russe pour faire cesser l'assaut contre le dernier bastion djihadiste au nord-ouest de la Syrie. Retour en France avec le début aujourd'hui de la concertation sur le futur revenu universel d'activité. L'idée, fusionner plusieurs aides sociales pour mieux lutter contre la pauvreté. Mais quelles aides et avec quel budget? Élément de réponse avec Claire Chaudière.
Avec cette réforme, répète l'exécutif, l'idée n'est pas de faire des économies, mais de simplifier le système compliqué et très fragmenté des prestations sociales pour toucher plus de monde et notamment tous ceux qui ont droit à des allocations mais ne les demandent pas. Ambition saluée par Claire Hédon, d'ATD Quart-Monde, qui fera partie de la concertation, mais un énorme flou demeure.
L'État fait une économie à peu près de 6 milliards d'euros tous les ans avec le non-recours au RSA. Donc ça veut dire que le gouvernement est prêt à mettre plus d'argent et ça, on veut des garanties là-dessus.
Car sans financement supplémentaire, comment verser les minima sociaux à plus de bénéficiaires sans faire de perdants, sans déshabiller Pierre pour habiller Paul? L'intégration des APL dans le dispositif notamment interroge partenaires sociaux et associations. Christophe Devis préside le collectif Alerte également autour de la table.
On ne veut pas faire de procès au gouvernement, mais la tentation est grande de profiter un peu de ces allocations logement pour faire des redistributions. C'est ce que nous craignons. Ce n'est pas la fusion en soi qui est une bonne idée, c'est la simplicité.
Faut-il également inclure dans ce RUA l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse ou encore l'allocation de solidarité spécifique? Autant de scénarios à débattre tout au long des prochains mois, propose le gouvernement.
10 questions sur le revenu universel d'activité, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Un grand appel à témoins pour enquêter sur les abus sexuels dans l'Église. La commission présidée par Jean-Marc Sauvé se donne un an pour recueillir les témoignages de victimes depuis les années 50. Un numéro de téléphone spécial est mis en place, le 01 80 52 33 55. Le congrès mondial de lutte contre le cancer à Chicago, avec une bonne nouvelle, deux médicaments permettent d'obtenir des résultats spectaculaires sur certains cancers chez l'enfant, des cancers qui jusqu'ici condamnaient les jeunes malades à court terme. Véronique Julia.
Les cancers pédiatriques se soignent plutôt bien en général, mais dans 20% des cas encore, c'est l'échec. Parmi ces cancers qui ne répondent pas aux traitements traditionnels, certains portent une altération génétique bien particulière mais très rare. C'est sur cette altération que deux médicaments sont capables d'agir aujourd'hui. Combien d'enfants concernés en France? 10, 20, 30? Très peu sans doute, mais pour eux c'est une révolution. François Dose est pédiatre-oncologue à l'Institut Curie.
Dans 100% des cas, la tumeur a diminué de volume de façon très significative et des patients qui étaient en situation très compliquée du fait de leur tumeur évolutive, on peut les considérer comme guéris.
Longtemps, les enfants ont été un peu les oubliés de la recherche anti-cancer. Peu d'essais thérapeutiques leur étaient consacrés, ils avaient peu accès aux innovations. Les deux médicaments en question ont cet avantage d'être efficaces chez les adultes comme chez les enfants et d'agir quel que soit l'organe malade.
Dans la mesure où on a repéré que cette altération moléculaire était commune à certains cancers de l'adulte et certains cancers de l'enfant, les enfants ont eu très tôt accès à ce nouveau médicament. Et c'est quand même encore assez rare qu'un nouveau médicament soit testé pratiquement en même temps chez l'enfant et chez l'adulte.
En France, quand un enfant est en impasse thérapeutique, une altération génétique comme celle-ci, sur laquelle on pourrait agir, est systématiquement recherchée. Le traitement est bien toléré, mais on ne sait pas pour l'instant s'il est ou pas toxique à long terme. Chicago, Véronique Julia, France Inter.
Il est 7h10, une nouvelle victoire pour les Bleus.
En match amical hier soir, l'équipe de France a battu la Bolivie 2-0, but de Lemar et Griezmann. Les Bleus qui joueront samedi lundi face à la Turquie pour les éliminatoires de l'Euro 2020. Roland Garros, semaine 2, avec au programme aujourd'hui un Gaël Monfils en grande forme qui va défier le finaliste de l'an dernier, Dominic Thiem, pour une place en quart de finale. Un défi à la hauteur de l'ambition du Français, Fabrice Abgral.
Le physique, pour l'instant, ça va bien. La confiance, forcément, elle est là. Pour l'instant, ça va.
Et c'est tant mieux, car Gaël Monfils devra être en pleine possession de ses moyens s'il veut éjecter Dominic Thiem du tournoi. L'Autrichien est au même titre que Djokovic, Nadal et Federer, l'un des quatre favoris de Roland-Garros. Thiem, c'est le finaliste de l'an passé. Un joueur face auquel Gaël Monfils a toujours perdu en quatre confrontations, dont deux sur terre battue. Mais c'est la première fois que le Parisien et l'Autrichien vont se retrouver face à face en grand chelem au meilleur des 5-7.
Ça va être encore plus dur, encore plus long. Ça rend la chose encore plus difficile.
Parce que c'est sur terre battue que le tennis tout en puissance de Dominic Thiem s'exprime le mieux. Face à lui, tous les joueurs sont mis au supplice.
C'est un tennis très très puissant qui prend énormément de risques. C'est un tennis très physique. Il y a peu personne qui arrive vraiment à tenir le rythme parce que il tape son coup droit ou son revers d'une violence incroyable, quoi. Il joue pas avec la balle et il la caresse pas, quoi. Il la caresse pas et elle vient vite et elle est lourde.
Et c'est ce tennis-là qui a permis à Dominic Thiem de battre à trois reprises Rafael Nadal sur terre battue depuis 2017, dont une fois cette année en demi-finale à Barcelone.
Et puis pour Benoît Paire, il faut retourner une situation mal embarquée. Le Français était mené 2-7-1 par le Japonais Kei Nishikori hier soir lorsque le match a été interrompu par la nuit. Et puis c'est l'éternelle question du mois de juin. Comment réviser le bac entre les matchs de Roland-Garros et les week-ends à rallonge? Dans 15 jours, ce sera la philo pour les terminales et l'écrit de français pour les premières. Alors, pour bien rentabiliser ces deux dernières semaines, les lycéens rivalisent d'imagination, des fiches techniques, des applications mobiles ou même des vidéos YouTube. Théophile Vareille.
Sortie des classes devant le lycée Camissé dans le sud de Paris. Ici, les révisions ont déjà commencé et chaque terminale y va de sa technique personnelle.
Alors, je me suis fait un agenda détaillé heure par heure pour mes révisions.
Je m'entraîne à faire plein de plans, faire de bonnes parties, des bonnes sous-parties. Je fais des plans sur tous les sujets, je fais vraiment pas d'impasse.
Certains révisent même sur leurs écrans.
Moi, je révise sur cartable, c'est une application de révision. Sur téléphone. En histoire, au bac blanc, j'ai eu 18 grâce à ça.
Et si ces applications de révision peuvent être utiles à 15 jours des épreuves, ce n'est pas le cas des vidéos YouTube, explique Aziza Selam, rédactrice en chef adjointe de Studirama.
Le gros problème des vidéos, c'est que parfois on peut s'y perdre. La vidéo ne peut absolument pas apporter l'équivalent d'un cours.
Alors que 70% des lycéens déclarent réviser avec l'aide de vidéos sur YouTube, seules les bonnes vieilles méthodes restent efficaces, insiste la spécialiste.
Alors la meilleure technique pour réviser, c'est de réaliser des fiches de révision. Par contre, si à 15 jours du bac, on n'a pas eu le temps d'en faire, c'est trop tard. Et à ce moment-là, on peut les télécharger plus facilement sur des sites internet déjà toutes prêtes.
À 2 semaines du bac, un bachelier sur 4 n'a toujours pas commencé ses révisions.
Allez, bon courage à toutes et à tous.
Merci Agnès Soubiran.